Ce week-end, Guillaume a emmené Charline et Juliette chez l'acaviste pour une dégustation.
Alors, ce petit chablis devrait vous plaire, faut juste l'aérer un petit peu.
L'aérer.
Voilà, tu fais tourner le verre en fait.
Comme ça là.
Voilà, le mouvement doit être souple et net. Voilà.
Ah bah là c'est cassé net. Ah,
oui, j'ai manqué de souplesse. Bon, j'en prends un autre.
Bon, alors maintenant on goûte.
Ouais.
En gardant à l'esprit que je vais vous interroger sur l'attaque, le corps et la longueur en bouche.
Non, mais
qu'est-ce que vous avez fait?
Ah ouais, on avait soif aussi, hein.
Non, mais vous êtes des éviers, ma parole. Oh là là, bon, qu'est-ce que vous avez décelé?
Ben, que c'était bien frais, bien agréable.
Ouais, c'était glouglou.
Je savais que ça vous plairait, parce que c'est un vin très très féminin.
Ah, d'accord.
Quoi?
Parce qu'il a une belle robe, non?
Ouais, ou qu'il a de la cuisse.
Mais c'est sexy, ce que tu viens de dire.
Oui, tu devrais être plus inclusif.
Inclusif, carrément.
Bah oui, pourquoi c'est toujours les mecs qui nous expliquent le vin?
Et des mecs français, en plus.
Ouais, enfin, français, là, ça me paraît normal.
Bah, c'est normal, quand on fera une dégustation de bière, on t'appellera, Charline.
C'est marrant comme tu deviens nationaliste quand t'as bu, toi.
J'ai pas bu, je déguste.
Oh. Non mais Charline Guillaume a raison, t'es crédible sur la cuisson des frites, pas sur le vin.
Voilà. C'est même pas les Français qui ont inventé le vin, c'est les Géorgiens.
Ah, mais t'as lu ça où toi, dans Picrate Magazine?
Non, je l'ai lu dans le manifeste pour un vin inclusif signé d'une caviste et belge en plus.
Oh là là.
Oh bah c'est ça, bah t'as qu'à l'inviter dans l'émission tant que t'y es.
Ah ouais. Bah c'est ce que je vais faire, et ce sera une émission robuste, puissante et charpentée.
Ouais, d'accord, une gonzesse, belge en plus. Saint-Émilion, priez pour nous.
France Inter, à écouter sans modération. Bienvenue chez les vendangeurs de la vanne, dont voici la devise. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours à moins de 3 fois la valeur à laquelle on l'a acquise. Jean-Bernard Tapie. Voici le sommaire. La période de la foire au vin touche à sa fin. Si le lien entre foire et politique est évident, le lien entre vin et politique l'est moins. Si Nicolas Sarkozy préfère le Coca-Cola et que Chirac était plutôt associé à la bière, Emmanuel Macron, lui, a un jour déclaré qu'il buvait du vin tous les jours.
Quand on boit beaucoup, il ne faut pas s'étonner d'être ivre. Et quand on est ivre, il ne faut pas s'étonner de dire n'importe quoi.
Tout le monde sait que plus on boit de vin, plus on a de chances d'être alcoolique. Mais depuis une étude menée par des profs d'école de commerce, on vient d'apprendre que plus on a tendance à être narcissique, plus on boit de vin. Et ces consommateurs égotistes de Picrate sont le plus souvent de sexe masculin, riches et instruits. Enfin, en passe d'être instruits.
On a un sauna dans la cuisine. Ça peut paraître bizarre, mais j'y garde mon vin. Je suis pas connaisseur, mais je sais qu'il doit rester au chaud.
Le dernier James Bond nous dit que mourir peut attendre. Voir une femme interpréter le rôle peut attendre aussi, ainsi que de voir un méchant sans cicatrice. C'est le nouveau débat autour de James Bond, dont les films reflètent une image négative des gens qui portent une cicatrice. Bref, le méchant stigmatise des gens.
Je pense bien, et surtout un gros, huileux, c'est frisoté avec des petits yeux, tout petits yeux cruels, avec des lunettes noires. Oh, une vraie tête d'assassin.
Et sans transition, à mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud.
Et en l'honneur de notre invité, c'est pas une équipe aujourd'hui, c'est une cave. Avec attention, on ouvre en finesse avec lui puisque c'est notre mélomane. Pour autant, lui, c'est pas de la bibine à mémé. En un mot, c'est un castard, un vin qui tabasse. Voici Djoubaka.
Ouais, j'ai arrêté les alcools forts quand même. On va dire au vin.
Quand?
Depuis
deux
hier.
Trois mois.
Et sinon, vous allez nous parler de quoi?
Eh ben, de Shannon et puis de ses coquillages.
Oui, bah oui. Un lundi normal pour Djoubaka, quoi.
Lui, justement, s'il était un vin, ce serait un de ceux qu'on dit épi-rheumatique. Ce dont on prend conscience que trop tard, une fois qu'on l'a en bouche. C'est une image, bien sûr. Comme une odeur de brûlé, de fumée, enfin, Satan, quoi. Voici
oui,
Guillaume Meurice.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Et bien, en hommage à Bernard Tapie, je vais vous parler d'escroquerie aujourd'hui. Je suis allé voir les gens parce que les gens, ils aiment les escrocs, même s'ils piquent de l'argent, voilà, qui manque pour les services publics. Par
non, non, mais t'es pas en train d'interroger un énarque.
Oui, on va y aller doucement. Doucement, tranquille.
Enfin, comme il existe des vins dont on dit après les avoir bu qu'ils se descendent tout chousse pour illustrer la vitesse stupéfiante à laquelle on descend leur bouteille, celui-là est de cette sorte stupéfiante. Thomas VDB.
Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors moi, vous savez, aujourd'hui, je vais vous parler de la grande pénurie internationale de matières premières. Et vous savez que moi, je m'intéresse particulièrement à la filière bois. Donc je vais vraiment aller au fond du sujet dans la filière bois.
Bah nous aussi c'est la filière bois parce qu'on va parler de vin, ça tombe
parfaitement
bien. Allez, voici celle qui va faire décanter l'actualité. Vous êtes
Je suis Sandrine Goyvart.
Oui,
je suis belge.
Bravo.
Charline Rennemaker, Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Sandrine Goyvaert. Vous êtes caviste à Liège en Belgique et vous écrivez aussi sur le vin, d'abord sur un blog La Pinardothèque qui a eu du succès, le journal Le Soir vous a repéré. Notamment, vous écrivez des livres sur le vin et vous venez de publier Manifeste pour un vin inclusif. C'est paru chez Nourriturfu, c'est une maison d'édition et d'événements qui s'avalent. C'est comme ça qu'elle
s'appelle. C'est ça, oui.
Ouais, c'est ça. Et vous êtes en résumé une caviste éco-féminazie en quelque sorte.
Émisande,
formidable. Écoutez, tout ce qu'on adore, on va cocher toutes les cases. Sandrine Goyvaert, rien que par le vocabulaire employé dans le milieu du vin, vous dites que c'est un milieu qui est pas du tout inclusif. Alors ça s'entend déjà rien qu'au mot qu'on emploie.
C'est ça. La diversité et le manque en fait de diversité, surtout dans le monde du vin, elle va se manifester par le langage en tout premier, et aussi par la visibilisation ou pas d'ailleurs des femmes, des personnes racisées, des personnes handicapées, etc. Et le langage, ben évidemment, c'est le premier vecteur du vin. Quand vous allez acheter une bouteille, quand vous dégustez dans un restaurant, vous devez nécessairement parler de vin, et les mots qu'on emploie et la structure des phrases, la façon de parler et le langage qu'on choisit, ils sont assez spécifiques et ils montrent vraiment qu'il y a une construction très binaire dans le langage du vin entre un masculin qui est évidemment fort, puissant, viril, charpenté et actif, et un féminin qui est lui plutôt éthéré, délicat, subtil, tout le contraire d'un tractopelle.
Un bouquet, une belle robe.
Voilà.
De la
alors,
cuisse.
La femme toujours dans le monde du vin, dans le vocabulaire, c'est toujours une espèce de rêve. C'est un fantasme. Et alors la femme, surtout, c'est une femme sans tête, hein, parce que les femmes sans tête, le problème, c'est que ça parle et que ça réfléchit. Et donc, quand on parle du vin, on parle toujours du corps de la femme. On parle de la cuisse, de la chair, de la rondeur, de la robe, mais on ne parle jamais de la femme en tant que en tant qu'individu. Par contre, l'homme, il est très actif dans le monde du vin. C'est toujours, il y a toujours comme ça cette binarité entre le masculin actif, le féminin passif. Et ça, ça se traduit, au restaurant, par exemple, quand on tend la carte des vins au monsieur plutôt qu'à la dame, parce que c'est lui qui agit, c'est lui qui pose les choix concrets, et la dame, elle attend qu'on lui donne du vin.
Sauf Juliette et moi, hein. Généralement c'est à Juliette et moi qu'on donne la carte. Je ne sais pas,
vous a repéré.
Il y a un millier de mots pour dorénavant parler du vin moderne, qui est un domaine en pleine expansion. Vous proposez de cultiver notre goût et les mots qui y vont avec. Alors, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que c'est, selon chez vous, un vin Didier?
Alors, le vin Didier, c'est une sommelière, parce que la révolution viendra par les femmes, évidemment. C'est une sommelière, un jour, qui m'a sorti cette expression-là, et j'ai trouvé ça hilarant. Et donc, ça décrit une certaine catégorie de vins, qui sont des vins qui ont des odeurs un peu d'écurie, ça sent un peu le cul, en fait, pour dire les choses très prosaïquement. Et donc, c'est une référence directe au film Didier, Alain Chabat. On ne sent pas le cul des gens Didier. Et donc, le vin Didier, c'est ça. C'est un vin qui sent un peu la merde, en gros.
Alors, on n'a pas envie de boire, en fait. On n'a pas envie,
on a pas envie de le boire. Alors, il y a des gens, bizarrement, qui aiment ça. Comme y a des gens mangent des tripes ou des gens mangent des trucs qui sentent un peu l'urine et ils aiment. Et donc, il y a une certaine catégorie de gens qui aiment bien les vins qui sentent la merde. Après, ces vins-là, c'est souvent une catégorie de vins qu'on va retrouver dans les vins nature. Et c'est pas forcément un défaut permanent. Ça peut être un défaut juste passager. Un peu comme parfois on est de sale humeur le matin. Et puis après, un bon café et un bon coup de musique, ça va mieux. Et certains vins peuvent avoir ce caractère comme ça, un peu Didier au départ. Et puis après, ça m'a doué devenir le gentil labrador.
Là, je sais pas si c'est hyper inclusif. C'est un peu délit d'initié. Si on sait pas ce que c'est qu'un vin Didier, on se fait prendre.
Voilà.
Ça ne nomme pas les choses véritablement.
C'est là tout l'intérêt, en fait, de se mettre au niveau de ses interlocuteurs et interlocutrice et de savoir avec qui on parle et comment on en parle. On peut parler évidemment de vin Didier si on est entre, allez, quarantenaire, cadra, parce que on a peut-être tous cette référence de film d'Alain Chabat. Par contre, si je parle à des petits jeunes de 20 ans, je vais peut-être plus leur parler de Aya Nakamura.
Nakamura.
Mais pourquoi pas? Pourquoi pas?
Vous ouvrez votre manifeste en citant une autre écrivaine de manifeste, Valérie Solanas, qui écrivait dans son manifeste, dans le Scum Manifesto, « Alors à toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens de la responsabilité et celui de la rigolade, il ne reste plus qu'à supprimer le sexe masculin. » Alors vous, vous êtes moins ambitieuse, vous dites, aucun homme ne sera blessé physiquement à la lecture de votre manifeste. Mais c'est vrai que souvent, ça nous fait l'effet, en tout cas nous, aux amatrices, surtout les femmes, que le vin, c'est un monde extrêmement sérieux. Et vous, on sent que vous vous employez dans votre manifeste à y mettre beaucoup d'humour.
Oui, parce que l'humour va tous nous sauver, et toutes nous sauver, je pense. Et ensuite, mais moi, je me suis toujours attachée à ça. C'est pas juste avec le manifeste. C'est comme ça depuis 15 ans. Depuis que je parle et que j'écris sur le vin, j'ai toujours essayé d'aller chercher le côté un peu fun et un peu rigolo. Parce que mon idée à moi, c'est de mettre ça accessible. Et de le rendre accessible à plein de gens. Et je pense qu'on peut faire passer des messages très forts, très politiques, en le faisant passer par le biais de l'humour. Je vous apprends rien ici, quoi.
Voilà. Oui, j'avais justement une question, hein, Sandrine Gouvers. Est-ce qu'il existe un racisme anti-vin blanc?
Alors ça,
c'est pour une amie.
Ça me fait rire parce que je suis assez évidemment. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est intéressant d'interroger cette problématique-là, etc. Mais il y a aussi une crispation que je sens surtout du côté très masculin et souvent un peu plus âgé qui se crée autour du manifeste. Et déjà rien que le terme en fait de inclusif, déjà j'entends d'ici le cri et le chant des vieux boomers qui me disent oh là là, on ne pourra plus dire un blanc de noir, on ne pourra plus dire un vin jaune, on ne peut plus dire parce qu'alors c'est du racisme anti-asiatique. Mais non, c'est débile les gars, on parle juste de couleur de vin. Donc parler de vin blanc de noir parce que c'est un procédé technique qui fait intervenir des raisins blancs, enfin des raisins noirs, pardon, qu'on utilise pour faire un vin blanc, il n'y a pas de souci. Le vin jaune, c'est jaune parce que ça a une couleur un peu jaune. Donc on ne va pas essayer de trouver un autre mot, c'est débile, absurde.
Et c'est dans le manifeste pour un vin inclusif par Sandrine Gouvart qui est avec nous jusqu'à 18h. Avec modération. 5 20 verres de vin blanc et fruits par jour. Non, je suis confondue, pardon.
À la vôtre.
Your Boogeyman, Casey and the Sunshine Band. Et c'est une programmation musicale de
De Chewbacca, qui est là d'ailleurs, avec, avec sa chemise en toile de Jouy. Et Thomas VDB.
Tout à fait.
Oui, il est joli, hein, il est joli. Celui qui est un petit peu moins joli, c'est Guillaume Meurice.
Oui, c'est moi. C'est voilà. Moi,
et notre invitée, Sandrine Goyvart, qui est caviste à Liège et qui manifeste pour un vin inclusif. Et nous, chaque jour, pour l'actualité.
Hervé Claude, Jean-Claude Narcy, faites place, ténor du journalisme. J'arrive.
Le journal de presque 17h17.
Attendez, il y a deux réponses à ça. La première, c'est je vous emmerde. C'est les juges devant qui il faut répondre, pas devant les journalistes.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on parlera du lancement non officiel de la campagne d'Emmanuel Macron sans Emmanuel Macron.
Réussir sa vie.
Voilà, vous chantez maintenant dans
c'est
les titres.
C'est mon hommage à Bernard Tapie, parce que je veux que Chewbacca produise mon prochain album.
Ah d'accord. Ouais. Alors on parlera aussi de Nicolas Dupont-Aignan.
Réussir sa vie. Non, ça marche pas.
Et on parlera aussi de Jean-Yves Le Drian.
Réussir sa fin de vie.
Ah non, allez-y.
Là, ça marchait. Regardez Chewbacca, il y a des étoiles dans les yeux. On commence par la politique.
Oui, ce week-end, LREM était réuni à Avignon pour faire son séminaire de rentrée. Et un ministre a déclaré à l'AFP, zéro bordel, c'est ça la règle, après chacun s'organise comme il veut.
Alors, la dernière fois que vous nous avez dit ça, Charline, au bureau, ça a été le bordel toute la journée.
Voilà, je confirme, prévenir. Voilà, c'est vrai. Ouais, voilà. Ouais. Et le 11 octobre à Marseille, des scientifiques et des experts vont débattre lors d'une conférence intitulée « Psychologie de la connerie en politique ».
Ah, mais attendez, c'était pas samedi dernier le séminaire de rentrée de l'REM ?
Oui, c'est pas clair.
C'est pas clair, hein, c'est pas clair.
Quoi, allez, ouais, politique encore.
Non, pas politique.
Ah bah
non.
Si, je vais parler de Nicolas Dupont-Aignan.
Ben oui, justement, vous avez dit politique.
Ah pardon, Nicolas Dupont-Aignan, voilà. Donc, hier, le président de Debout la France a lancé sa campagne pour l'élection présidentielle.
Non, Charline, mais non, je vous ai déjà dit, vous faites l'actu, moi je fais les vannes derrière.
Mais il n'y avait pas de vannes, Guillaume, je donne juste l'info.
Mais vous avez dit Nicolas Dupont-Aignan est présidentiel, comment voulez-vous que je sois plus drôle que ça ? Non mais ça va, c'est de la concurrence déloyale.
On va enchaîner. Interviewé dans Libération samedi, Cyril Hanouna a déclaré « Jean-Luc Mélenchon, c'est la famille. On s'est même embrouillé le week-end dernier par SMS comme deux frères. »
Les nouilles dans le slip, c'est moi !
Ça m'avait manqué de le faire.
J'ai prévenu à la technique. Clément Rouillet était prévenu. Ce lundi, Emmanuel Macron a visité un refuge de la SPA pour évoquer la cause animale.
Alors, c'est marrant, il y a un mec qui s'appelle pareil qui a autorisé le maintien de la chasse traditionnelle. Emmanuel Macron. Les homonymes, parfois, c'est cocasse.
On enchaîne avec l'information du week-end. Bernard Tapie est décédé dimanche matin des suites d'un cancer. Il se disait de gauche, mais il aimait l'argent. Oui. Il défendait le capitalisme. Il se battait pour les patrons.
Attendez, il aimait les cordons bleus aussi ?
Ah, je crois, oui.
Il supportait l'OM ?
Bah oui.
Ok, donc Emmanuel Macron lui a clairement tout piqué. Il a gadelmaïsé.
Complètement. Comme on dit dans le jargon, quoi. La commission Sauvé sur les cas de pédophilie dans l'Église va rendre son rapport demain. On sait déjà qu'entre 2900 et 3200 prêtres pédocriminels ont sévi depuis 1950.
Et on sait d'ores et déjà quel sera le thème de la prochaine chanson de Frédéric Fromet.
Voilà. Une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation a révélé que de nombreux chefs d'État ou hommes politiques dissimulent leur argent derrière des sociétés écrans anonymes malgré les récentes affaires comme les Panama Papers.
Comment, Charline ? Quoi ? Qu'entends-je ? Les hommes politiques ont un sentiment d'impunité. Comment est-ce possible ? Comment ils cachent du pognon ? Non ! Je n'en crois pas mes oreilles.
C'est comme vous, Guillaume.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Eh ben, vous cachez tellement bien votre talent de comédien, on ne voit pas.
Science à présent.
Oui, selon une étude, les humains pourraient vivre au-delà de 130 ans.
Ce qui laisse encore 2-3 bonnes années à Jean-Yves Le Drian.
Et technologie, enfin, TikTok se lance dans la vente de NFT avec des artistes comme Lil Nas X et Bella Porch.
Alors, attendez, Charline, parce que vous n'avez absolument pas compris un seul mot de ce que vous venez de dire.
Non, j'ai tout compris, moi.
D'accord, expliquez-nous, Charline. Alors.
Oh, c'est la fin du journal.
Allez,
en plus, on est avec Sandrine Goyvart. Voilà, caviste à Liège et manifeste pour un vin inclusif, c'est son livre, on enchaîne. La relation au vin est une question épineuse pour l'homme politique car on l'aime amateur de vin, bon vivant, tout en relayant aussi les appels à la modération. Alors s'il subit la pression du lobby viticole, il finit par faire comme le précédent ministre de l'Agriculture et dire une connerie, le vin c'est pas de l'alcool. Alors pour en savoir plus, on a débusqué le caviste de l'Assemblée nationale.
Vous êtes sommelier, vous ?
Oui. De formation, ouais.
De formation.
Ouais, j'ai été champion de Belgique des œnologues. 2001, 2002, 2003, pas 2004, 2005, 2006, 2007, pas 2008, 2009 et 2010.
Je suis ce qu'il y a entre guillemets de plus compétent au niveau testing, wine testing, quoi. Je travaille un peu partout, all around the world. for my job. Je suis sélectionneur officiel pour les plus grands hôtels de Paris. Et pour le moment, je suis courtisé un peu partout dans le monde. C'est moi qui ai constitué la caravane Nicolas Sarkozy, pour vous donner une idée.
C'est François Damiens, alias François Lambrouille. Alors Sandrine Goyvars, le vin, est-ce que c'est un instrument de pouvoir ?
Évidemment, le vin, c'est un objet politique. Alors déjà, parce que quand on l'achète, on pose des choix politiques. Si on achète du vin bio, si on achète du vin de vigneronne, si on achète du vin qui est fait avec certaines méthodes ou avec une certaine éthique derrière, c'est sûr que c'est un objet politique. Et ensuite, évidemment, que c'est aussi la filière du vin, c'est 500 000 emplois en France. Donc ça veut dire que quand vous parlez de vin négativement ou positivement, vous avez aussi toute une partie d'électorat à qui vous allez vous adresser. Et pour les hommes politiques, c'est hyper important. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir comment les présidents successifs envisageaient le vin. De Gaulle, c'était la champagne. Il adorait la champagne. Par exemple, Sarkozy ne boit pas de vin, mais a toujours eu à cœur d'avoir les plus grands crus dans sa cave. Hollande, lui, par contre, il a plutôt jarté les grands crus et il a plutôt repris des trucs paysans. Ça a été, je crois, le premier qui a resservi du muscadet à l'Élysée. Et donc, quand on fait un choix de vin comme ça, en tant qu'homme politique, on pose aussi une façon en fait d'envisager les gens et d'envisager le peuple derrière. C'est sûr que quand vous buvez des grands crus classés ou quand vous buvez du muscadet ou du cidre ou du champagne, vous n'envoyez pas du tout le même message politique. Vous,
et quand
vous
on est
détachez,
une femme,
en fait.
Quand on est une femme politique, parce que pour un homme politique, on se dit oh, c'est rassurant, il aime bien boire un coup. Mais quand c'est une femme politique,
femme tout court.
Les femmes politiques ou les femmes tout court, elles ont toujours un rapport hyper ambivalent avec le vin. D'un côté, on n'a pas envie de passer pour la chieuse de service qui ne boit pas, parce que purée, les femmes, ça boit jamais, c'est chiant, ça mange de la salade. Et en même temps, il y a aussi le fait que si une femme boit trop, c'est pas très sympa. Un mec qui boit trop ou qui prend des cuites, ou c'est assez valorisé parce qu'il y a une forme de culture de la virilité comme ça par la beuverie, qui est très connotée positivement. Par contre, une femme, elle se laisse aller, quoi. Si elle boit deux verres, c'est déjà la fin du monde. Donc là aussi, il y a quelque chose d'hyper intéressant à creuser sur ce rapport. Mais ça vient de loin.
Mais il y a quand même beaucoup de garçons qui sont des pochetron aussi, quand même. Enfin, il n'y a pas le truc, oh, regarde, il est viril.
Ouais, mais il y a
pas de mecs qui sont traités de gros arsouilles et tout ça, quand même.
Oui, mais c'est un côté un peu bon enfant, en fait. C'est comme les gros mangeurs et les grosses mangeuses. Une femme grosse qui va manger, on va la regarder de travers. Un homme gros qui va manger une grosse entrecôte, on va dire, t'as vu le bon vivant. Il y a un côté super valorisé, en fait, de la bedaine et du gras chez l'homme. Par contre, chez la femme, non, pas du tout. Une femme grosse, j'ai un petit peu de quoi je parle. Une femme grosse, honnêtement, elle peut pas s'exprimer là-dessus. Et donc, il y a vraiment deux poids, deux mesures, toujours, avec le rapport à la bouffe ou à l'alcool, de toute façon.
Et alors, Marisol Touraine a raconté sur Public Sénat un jour qu'il y avait un élu local qui l'avait fait passer par tous les stands de la foire. Et à chaque fois, on lui proposait un verre
pour voir
si elle allait arriver. Voilà, exactement, tester la résistance de la femme politique sur le terrain par les hommes.
Mais oui.
Elle témoigne de ça. Et voilà, ça se passe comme ça. Donc, on vous renvoie vers l'inclusivité, le manifeste de Sandrine Goyvars. Car c'est politique, donc. Musicalement, je ne sais pas ce qu'on pourrait boire avec une bonne chronique de Chewbacca.
Moi, tout ce que vous voulez, en fait, moi, je ne suis pas... Allez, vous vous souvenez, il y a des fois, il y a des groupes pour qui on se demande quelle suite ils vont donner à leur dernier album. Alors, vont-ils refaire la même chose ou être possédés par un nouveau mojo qui va les faire basculer vers une sorte de renaissance? Et chez Shannon and the Clams, donc Shannon et les Coquillages, le groupe qui nous intéresse aujourd'hui, on sentait bien que l'étiquette un peu rétro-rock comme ça qu'on leur collait semblait un poil réductrice. Shannon Cho, c'est la chanteuse, co-créatrice du groupe, avait fait il y a 4 ans un album, un Nashville avec la crème des musiciens. Tout était parfait, mais il manquait à ce disque un côté un peu rigolard et décalé qu'on connaissait chez elle quand on était avec son groupe, avec ses clams, ses coquillages. Alors, elle a été élevée dans une famille de mormons, stricte, donc, et enfant, elle ne pouvait écouter que des disques des années 50 ou 60. Et pas ceux qui étaient à double sens. Donc que du doo-wop. Donc elle a écouté ça toute son enfance avec des groupes vocaux. Vous savez, c'était un peu cucu la praline. On faisait dire que les garçons naissaient dans les chouches, un peu caricatural, et les filles dans les roses. Mais on était quand même un peu dans ce registre-là. Par contre, sur les arrangements, il y avait une ingéniosité, quelque chose de remarquable. Et par chance pour nous, en fait, elle a gardé le meilleur de cette éducation, c'est-à-dire la musique, les harmonies. Et elle avait su matiner ça d'un rock garage qui sentait bon comme ça, l'huile de coude. Et cerise sur le donuts, Shannon Cho pouvait faire penser qu'elle était une créature toute droite sortie d'un film de John Waters. Elle incarne Sévère, c'est un personnage. Alors son nouvel album, Year of the Spider, l'année de l'araignée, est sans rapport avec un film d'horreur ou une invasion des petites bêtes. Je vous rembobine un petit peu pour vous expliquer de quoi il en retourne. Alors notre chanteuse a toujours eu une peur phobique des araignées. Et on peut dire que sa daronne, mormone donc, a largement enfoncé le clou en lui répétant à qui mieux mieux qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que sa fille attirait ces bestioles, que les arachnides aimaient se balader sur son visage poupin et qu'elles aimaient aussi s'installer dans son pieu avant une petite sieste. Alors je pense, sans trop m'avancer, que c'est le genre de discours qui marque. Et si tu dois associer un symbole à chaque fois que ta vie frôle le pourri, tu vas mettre ces petites bêtes en haut du podium. Il y a 2 ans, Shannon Cho, elle commençait à voir arriver comme ça dans sa vie une escadrille d'emmerdements. Les entrepôts d'artistes où elle répétait à Auckland avaient pris feu, beaucoup de ses amis étaient morts. On continue avec des énormes feux de forêt qui ont ravagé la Californie et qui ont poussé leurs flammes jusqu'à la maison familiale. Et pour couronner le tout, elle avait été harcelée pendant 9 mois par un voisin voyeur qui stationnait à côté de son appartement. Elle va voir la police, on est aux USA, ils disent « Madame, armez-vous, on en verra après ». Donc, arrivée là, elle sait plus à quel saint se vouer et elle va voir une Madame Irma, un peu ce que fait régulièrement Guillaume, et elle lui dit « Il faut absolument que vous invoquiez d'urgence la déesse Durga ». Qui, quand on regarde la déesse hindoue, a autant de bras qu'une araignée. Et là, elle se dit, oh, c'est incroyable ce qui m'arrive dans ma vie. On va conjurer le sort et l'écriture de l'album commence. C'est vrai tout ce que je vous raconte. Alors oui, il y a toujours ces références à la douceur des 60s, mais aussi de l'instabilité, de la rage rythmique, vraiment chez elle, on retrouve quelque chose.
Il y a beaucoup de failles chez les artistes que vous nous présentez.
Oui, toujours, parce que c'est ça qui m'intéresse, hein, franchement. Donc c'est faussement gentil, en fait. Ça sent la déglingue et puis l'envie d'en découdre. Et en plus, alors ça c'est plus marrant, ce disque, il a été mixé au moment où des tornades se sont abattues sur la ville de Nashville.
Mais non, c'est pas marrant.
Et, voilà. Et ensuite, à cause de l'épidémie, il a mis 1 an à sortir. Alors comme qui dirait, du boxon autour de l'araignée. Donc la chanson que nous allons écouter parle de ses amis disparus, il y en a, à cause des substances qui les ont rendus invisibles. Et la drogue du jour a un nouveau nom, elle s'appelle Midnight Wine, le vin de minuit.
Ah.
Alors... Yeah. C'était Shannon and the Clams, Shannon et ses coquillages, non, Midnight Wine.
Merci Djoubaka pour ce choix.
Elle va bien sortir.
Ouais, carrément. Nous recevons Sandrine Goyvaert et son manifeste pour un vin inclusif. Tout ce qui est inclusivité, c'est aussi l'affaire de Guillaume Meurice.
Oui, tout à fait, tout à fait. Je vais vous parler d'une passion française aujourd'hui, et non pas le pinard, hein, qui n'est d'ailleurs pas une passion, mais une culture. On l'a rappelé, c'est vrai que des fois, on se fait des soirées culture avec l'équipe, qui sont assez sympas. Juliette, vous adorez la culture, on le rappelle. Elle nous fait découvrir des trucs en littérature formidables. Le Rouge et le Pinot Noir, notamment. Enfin, Notre-Dame de Pouilly. Enfin, tout ça est formidable. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre passion française, l'escroquerie. Il y a toujours eu des très bons millésimes en France. Et là, on a un alignement des planètes formidable. Mort de Bernard Tapie, condamnation de Sarkozy, Pandora Papers, sortie de l'album de Gangsta Rap de Patrick Balkany. Je rigole pour le dernier. Djoubaka est déjà sur le coup. Avouez que ça aurait eu un petit peu de gueule.
On y croit.
Ouais, là, il y a du destin brisé. Là, il y a du swing de l'Ouest parisien qui fait remuer les arpions dans les chaumières. Rebref, toujours est-il qu'on a toujours été fasciné en France par les escrocs. Plus on se fait arnaquer, plus on est content. On regrette Chirac en France. Le mec nous a littéralement dépouillé. Il vivait dans notre poche, mais il était sympa. Et c'est vrai qu'on a un truc comme ça, on aime ça, c'est notre tradition. L'escroc français, du producteur au consommateur, circuit court. On a une sorte de label AOC qu'on défend. Et je suis allé le vérifier encore une fois dans les rues de notre beau pays ce matin. Hommage pour commencer à Bernard Tapie.
C'est un grand, grand monsieur. C'est un grand politicien. Monsieur.
Alors il y a tout le côté un peu escroc, un peu...
Non, il n'est pas. Et c'est un businessman.
Tapie, c'est pas un magouilleur alors?
Non.
C'est l'image qu'il avait un peu.
Il faut mieux dire malin.
Ah, malin, oui, il est malin.
Voilà,
c'est malin. En fait, il y a plein de synonymes, si vous lisez la presse ce matin. Pour pas dire magouilleur, j'ai même lu filou. C'est mignon, Bernard Tapie, le filou, voilà.
Petit filou.
Et c'était un battant, ça on l'a beaucoup lu, un battant. Alors ça c'est un truc de winner. Si vous vous levez à 6h du mat pour aller torcher des vieux ou nettoyer les chiottes d'un hôtel, vous n'êtes pas un battant. Hein. Vous ferez jamais la une des journaux, mais avec le cancer. Pour être un battant, il faut un cancer et un jet. Des os, pas des os. Il faut réussir, et pour ça...
Pour réussir, il faut tricher.
Ça c'est obligatoire?
Sûrement. Il a toujours triché, même dans le football.
Ouais.
Sinon il ne serait jamais arrivé.
Mais est-ce que c'est moral?
Ah ben c'est pas moral.
C'est pas moral.
La moralité, elle est chez les communistes en URSS.
Ah oui.
En URSS.
Alors bon, c'est vrai que Staline avait une morale. Il avait des défauts, Staline. Attention, faut qu'on soit objectif dans cette émission aussi. Il était un peu soupolet, mais c'est vrai qu'il avait une morale. Alors que Tapie, bon, il aurait fait passer Madoff pour Mère Teresa. Mais c'était ça, c'était une ambiance, c'était les années Tapie, c'était comment?
Mon Dieu, c'était bien. Ah.
C'était bien. Qu'est-ce qui était bien alors?
Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il racontait, même ce qu'on n'aimait pas, mais ça fait rien, quoi. Bon.
Il était un peu roublard, on va dire, un peu magouilleux.
Oh, bah, écoutez, qui n'est pas roublard dans la vie, voulez-vous me le dire?
Est-ce que vous êtes roublard un peu, vous?
Ah, j'essaye, hein.
C'est vrai?
Oh, au niveau des impôts, des fois, j'essaye.
Mais oui, mais c'est l'esprit Tapie, c'est ça qui nous a laissé. C'est essayer, c'est tenter le coup. On a tous quelque chose en nous de Bernard Tapie. Voilà comme tous ces artistes qui fraudent le fisc, là, on le voit. D'ailleurs, il est où, Vizorek? Il se cache. Je l'ai cherché dans les Pandora Papers, je ne l'ai pas vu. Et attention, je suis vigilant. Qu'est-ce qu'elle en pense, cette dame?
Je ne vais pas dire que ça amuse le monde.
Ouais.
Mais franchement, il y a des choses plus importantes que tout ça.
C'est 11 000 milliards.
Qui disent.
Oui.
Mais on n'a pas été voir.
Ah oui, il faudrait faire une contre-enquête, vous voulez dire.
Ah bah oui.
Est-ce que vous allez aller vérifier, vous?
Faut déjà que je vérifie les liens, alors.
Et oui, fraude fiscale bien ordonnée commence par soi-même, hein, bien évidemment. Vous avez vu, j'ai rencontré une sorte d'anti-Élise Lucet. Une sorte de cache-investigation à l'envers. Qu'est-ce qu'elle pense de la condamnation de Nicolas Sarkozy?
Oh, écoutez, alors, les prisons sont pleines. On va pas encore aller prendre une place à la prison.
Oui, les prisons sont pleines, c'est pas la peine de rajouter Sarkozy, quoi.
Non, c'est pas la peine.
Voilà, bon argument. Il y a plus de place, de toute façon, on est complet, voilà. Où est-ce qu'on va le mettre, là, Nicolas? Il aurait dû la prendre comme avocat, je pense que ça passait au tribunal. De toute façon, Sarkozy, on le sait, il est innocent. Hein. Ça, c'est ce monsieur-là qui me l'a dit.
C'est un acharnement judiciaire. Tout le monde le dit.
Ah ben, pas tout le monde, quand même.
Oh, Sarkozy ne serait jamais condamné. Hein.
Mais vous le pensez innocent?
C'est étonnant, vu sa place, de ne pas savoir ce qui se passait.
Ah oui, vous le pensez un peu coupable, alors?
Oui, oui.
Alors, oui, alors, lui, j'espère qu'il n'a pas été avocat de Sarkozy ou qu'il ne l'est pas. Remarque, ça irait plus vite. Il n'y aurait pas 2 ans de procédure. Hein. Sa plaidoirie, ce serait « Mon client est innocent, mais ça m'étonnerait quand même qu'il ne sache pas la vérité. Donc, à mon avis, il est coupable. » Fin du procès, terminé. D'ailleurs, fin de la chronique avec l'explication de pourquoi, excepté les juges, les Français aiment leurs escrocs, pardon.
Pourquoi ?
Ouais.
Parce que la justice, ils sont tous de gauche.
Tous les juges sont de gauche ?
C'est une majorité.
Et bien sûr, une majorité, selon les chiffres de l'Institut Pifomètre. Cette majorité de juges rouges, comme on les appelle, qui condamnent des gens pour un paquet de pâtes volées, hein, pendant que ça détourne du pognon, voilà, que l'hôpital public, l'école et même la justice crèvent. Quand on veut rendre hommage aux escrocs, c'est comme avec le vin, quand on a trop bu, on dépose une gerbe.
Guillaume Meurice, voilà, pour le courrier, c'est également Guillaume Meurice, 17h43, sur France Inter. Juliette Arnaud, vous allez soumettre un autre thème à notre invitée Sandrine Goyvart.
Une des particularités des êtres narcissiques, à part un sentiment de supériorité de la taille d'un centre commercial, c'est, entre autres, un goût affirmé pour le prestige et la reconnaissance sociale. Et vu que le vin est un marqueur social des classes supérieures, de la bourgeoisie, les plus grands consommateurs de vin sont donc souvent de grands narcissiques. Consommateurs et pas forcément amateurs, car on peut consommer du vin juste pour le style, sans aimer forcément ça. C'est un peu surprenant, car traditionnellement, le vin, c'est aussi ce qui permet de se retrouver entre amis et de partager.
Moi qui suis pas trop sangrier d'habitude, là, je sais pas ce que t'as mis dedans, mais...
Ah ouais, elle est super.
Qu'est-ce que t'as mis dedans, Jean-Michel?
Bah, le vin que t'as apporté, puis sinon, comme d'hab, orange, cannelle, sucre.
Quel vin t'as pris?
Bah, le vin, là, dans la cuisine, comme tu m'as dit.
Tu parles pas des bouteilles que j'ai posées sur la table?
Ouais, c'est ça, ouais.
T'as pas pris le Château Pétrus? T'as pas mis du Château Pétrus 89 dans la sangria?
Mais c'est...
Ah mais c'était le vin des cubis qu'il fallait prendre. Merde, Jean-Mich, c'est pas possible, quoi. Tu sais combien ça coûte une bouteille de Pétrus?
Je suis désolé, Yves. Je te demande pardon, je vais te les rembourser.
Mais non, c'est pas une question d'argent, Jean-Mich, mais... Mais merde, quand même, on va quoi? Chier, quoi, merde.
C'était, vous l'avez reconnu peut-être, Sandrine, le
Barbecue.
Film, exactement, le film d'Éric Lavenne avec Guillaume Tonquédec et Jérôme Commandeur. Et est-ce que c'est une chose que vous avez notée dans l'exercice de votre métier de caviste, qu'il y a un pourcentage de gens manifestement plus narcissiques que la moyenne?
Plus narcissique, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas du tout les hommes et les femmes s'exprimer de la même façon quand ils viennent chercher du vin, par exemple, à la cave. Et je vois que chez les hommes, c'est vraiment un enjeu de pas passer pour ridicule ou d'utiliser des termes ou des mots. Alors, ils comprennent pas forcément de quoi ils parlent, mais ils ont entendu une fois qu'il fallait parler de vin tannique ou de Côte-du-Rhône ou de trucs. Et du coup, ils ont tendance à exagérer et à être dans la surenchère. À tel point que j'ai eu une fois un monsieur qui m'a demandé du baume de Venise, ce fameux vin italien. Et quand je lui ai expliqué gentiment, parce que je suis pas là non plus pour fouetter les clients, enfin, en tout cas pas aux heures d'ouverture. Là, tout de suite, il s'est décomposé, parce que pour lui, voilà, il venait de comprendre qu'il venait de se faire prendre en flag, et pour lui, c'était comme, je sais pas, comme si j'avais été pissée sur son canapé et j'avais démoli sa virilité d'un coup, parce que simplement, je lui avais montré qu'il connaissait pas aussi bien le vin qu'il ne le pensait. Chez les femmes, on n'a pas du tout cette attitude-là, et en général, même si elles y connaissent beaucoup de choses, elles ont pas tendance à être aussi affirmatives. Elles ont plutôt tendance à écouter. Ça, c'est quand même cool. C'est super.
Mais ça reste un marqueur social, le vin, très
évidemment.
Clair, ça le reste. Vous citez l'exemple, par exemple, de Jay-Z au moment où il crée sa boîte de champagne. C'est parce qu'au début des années 2000, dans tous les clips de rap, on voit les rappeurs utiliser du Crystal Roederer, un champagne qui est excessivement cher. Et le patron de Crystal Roederer dit à l'époque, on ne peut pas les empêcher d'en boire.
Ouais.
Jay-Z le prend pas très bien, et il a raison, il rachète lui-même un cépage de champagne.
Oui, il a créé sa propre marque, et c'est vrai qu'il y a à la fois, non seulement il y a mépris de classe, mais il y a aussi du racisme là-dedans, hein. Voir des Noirs qui boivent du champagne, pour certaines maisons de champagne, c'est impensable. Il y a un côté, ils n'ont pas la culture, ils peuvent pas apprécier. Et même plus loin que ça, il y a un anti-américanisme qui s'exprime aussi, qui est aussi du racisme, soyons clairs. La France, alors attention, parce que je crois qu'il y a beaucoup de Français dans la pièce, donc je vais quand même essayer de ne pas de prendre des pincettes. J'ai une alliée belge en face de moi, mais je vais prendre des pincettes quand même. Il y a un côté quand même chez les Français et les Françaises, surtout les Français, à avoir une espèce de vision hégémonique de la culture vin, et comme si tous les Français avaient inventé le vin et tous les Français avaient inventé la gastronomie, et on peut pas remettre ça en question. Et même s'ils n'y connaissent rien, c'est une espèce de truc qui leur est descendu dessus comme comme une espèce de voile.
On est infusé dedans.
Et chez les Français, il y a ce côté-là. C'est notre truc qu'il faut défendre à tout prix.
Mais on vous aime quand même pour ça. Hein.
Mais oui, bien sûr, parce que nous, on fait de la bière, on fait un peu de vin. Mais c'est vrai qu'on est quand même très culture bière, mais on boit vos vins, donc on peut pas dire qu'on vous aime pas.
Mais voilà,
enfin, pas officiellement.
Thomas VDB, dites-moi.
Bonjour les amis. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet avec un intitulé de prof d'éco, puisque je vais vous parler de la pénurie internationale de matières premières, parce que j'étais moi-même un peu en pénurie d'idées, faut bien le dire, pour ma chronique. Et avec ma compagne, l'année dernière, on voulait s'acheter un canapé. Voilà, c'est après que ça devient international. Et en fait, il y a 6 mois, on voit un canapé qui nous plaît à 1 100 euros, mais on hésite parce qu'on se dit bon, c'est cher et tout. Puis le temps qu'on se décide, 6 mois plus tard, la semaine dernière, il était à 1 800 euros. Donc je parle à la dame au magasin et elle m'explique que les Américains et les Chinois, ils prennent tout le stock de bois pour eux et que les prix s'envolent et que nous, on n'a plus de bois. Mais moi, c'est sûr, je savais pas, parce qu'avant d'acheter un meuble, je suis sur le site de Conforama, je suis pas sur le site de la bourse, quoi. Bon. Et j'avoue que moi, quelque part, ça m'étonne pas qu'il y ait plus de bois, parce qu'avec tous les incendies qu'il y a tout le temps et toutes les forêts rasées, même, je vois que ça fait un moment que j'étais étonné qu'il en reste encore. À chaque fois que j'entendais qu'il y a une forêt qui brûlait, j'ai dit, il restait du bois, c'est bien, bon. C'est vrai que ces dernières années, on en arrive à se rattraper aux branches, voilà. Même on en a arraché quelques-unes pour se fabriquer les chaises. Mais j'ai comme l'impression qu'on consomme plus de bois qu'il ne met de temps à en pousser. Alors c'est bien beau les marques qui te disent, pour un canapé acheté, un arbre planté. Mais c'est vrai que s'il faut que j'attende que l'arbre pousse pour qu'on me livre un nouveau canapé, le vendeur, il va me dire, alors pour la livraison, est-ce que vous serez chez vous plutôt le matin, le mardi 3 septembre 2071? Et moi, je serai là, mais si personne n'a trouvé mon cadavre dans la maison, quoi, parce que, normalement, oui, j'y serai, mais prenez un pied de biche quand même pour rentrer dans la maison. Non, je me demande si le mieux pour aider la reforestation, ce serait pas d'essayer d'arrêter la déforestation, ou bien tout simplement de rester dans la forestation. Parce qu'on a quand même, on entend quand même plus souvent parler de forêts qui brûlent ou de forêts rasées que de nouvelles forêts. Hein, c'est vrai que quand on se promène, jamais on voit des panneaux « Ne pas marcher ici, future forêt ». On voit jamais ça. Bon. Et le problème, il est général, il n'y a pas que le bois qui augmente, parce que tout augmente. Il y a l'électricité, le gaz, le pétrole, et ça m'emmerde un peu, parce que même moi, les combustibles, ça n'a jamais été trop ma passion, et j'avais pas prévu de devoir m'intéresser au prix du gaz. Déjà, quand mon père, il disait, j'ai remis 2000 litres de fioul dans la chaudière, j'avais pas hâte de devenir adulte, moi. C'est vrai, je sentais que c'était un sujet compliqué, je dis, oh, voilà. J'aurais même pas la différence entre le fioul, le gasoil, le mazout, c'est un truc pas intéressant, quoi. Même Netflix, ça augmente. Ce week-end, ils ont envoyé un mail pour prévenir, et j'avoue, j'ai pas compris la matière première qui leur manque. À mon avis, à Netflix, il y a quelqu'un qui s'est dit, attends, tout le monde augmente les prix, on va faire pareil, ça passera inaperçu au milieu des autres. Et on voit, et apparemment, on prévoit déjà même une pénurie de jouets à Noël. Alors, mais de toute façon, moi, pour Noël, j'ai un peu revu toutes mes attentes à la baisse, j'ai juste demandé du bois. Voilà, comme ça, les cadeaux, j'ai même plus au pied du sapin, pour moi, le cadeau, c'est le sapin. Comme ça, c'est bien. Et moi, pour ma belle-mère, j'ai trouvé un super cadeau, c'est un rondin d'épicéa. Et vraiment, c'est chouette. Mon fils, je vais lui offrir une belle écharde. Voilà, bon, à la base, je vais lui offrir une écharpe, alors une lettre près, donc je suis content quand même, quoi. Mais c'est surtout dans le domaine technologique que les pénuries se font le plus sentir. Parce que les marques de voitures aujourd'hui, elles ont plus les matières premières pour fabriquer les tableaux de bord électroniques. Donc elles se remettent à faire des tableaux de bord comme avant avec des aiguilles. Donc tous les mecs qui veulent acheter des voitures neuves, ils sont dégoûtés. Ils sont là, je veux le nouveau truc, moi, avec l'hologramme. Le gars, il n'y a pas le vieux truc avec les aiguilles. Il dit, je suis pas pour le modèle Amish, moi. Évidemment. Alors je sais pas s'il va falloir qu'on s'habitue au modèle Amish, mais si à Noël on doit offrir des jouets d'occasion et que les voitures reviennent à l'aiguille, c'est qu'on est peut-être on est arrivé à la limite de ce qu'on est capable de produire. Je me dis peut-être qu'on est arrivé tout au bout du progrès technologique. Mais ça, je trouve qu'on commence vraiment à toucher du doigt les problèmes de demain. C'est vraiment une mise en bouche de l'effondrement. Et moi, je pensais pas dans la vie que j'aurais du mal à me procurer un canapé à cause d'une pénurie de bois. Je pouvais l'imaginer pour mes enfants ou mes petits-enfants. Ça, j'avais commencé à me faire à l'idée. Bon, pas de problème là-dessus, hein, pas de problème. Mais en 2021, j'ai déjà. C'est quand même un peu relou. J'attendais pas si tôt les premiers signes de fin du monde. Merci à tous.
Thomas VDB, merci. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour les fûts? On n'a plus de pour les fûts. Merci Thomas VDB, à revoir en vidéo si vous le souhaitez. Sandrine Goyvart, on aborde le thème que vous avez choisi. L'histoire des James Bond est aussi faite d'une longue série de méchants avec des défigurations faciales. La question James Bond, pourrait-il être une femme, a déjà été pas mal étrennée. Le nouveau débat autour de l'agent 007 tourne autour de la défiguration du méchant. Voilà qui donne l'image négative des gens qui portent une cicatrice au visage. Heureusement qu'en France, la représentation du méchant est autrement plus originale. Fouillez, cherchez.
Elle avait raison, vous êtes un homme méchant, monsieur Brochamp.
Oui, je suis méchant. C'est aussi ce que dit Christine. Vous voyez, tout le monde est d'accord, je suis méchant. Tiens, voilà un truc que vous pourriez mettre sur mon répondeur. Il est méchant, monsieur Brochamp. Il est méchant, monsieur Brochamp.
Vous devriez pas mélanger l'alcool et les médicaments.
Mais pourquoi pas? C'est une belle morale pour cette histoire. Le méchant Brochamp, abandonné de tous, se saoule tout seul dans son grand appartement vide et le gentil Pignon rentre chez lui avec ses maquettes en pensant « c'est bien fait pour ce salaud ». Il est méchant, monsieur Brochamp. Il est mignon, monsieur Pignon.
Thierry Lhermitte, Jacques Villeray dans Le Dîner de Cons, Francis Weber. Il y a un nouveau média qui s'appelle 45secondes.fr qui traite de ce sujet, des méchants balafrés dans James Bond. On était passé à côté de ce sujet si vous nous en aviez pas parlé, mais d'abord, vous vouez une passion à James Bond. C'est quoi, comme le bon vin, il vieillit bien? Comment ça se passe?
Bah, pas exactement, parce que James Bond, en fait, c'est le personnage que je déteste. Ah. En réalité, en tant que féministe, c'est absolument l'antithèse de ce que je pourrais aimer. Si on aime Ian Fleming, si on a lu Ian Fleming, James, il est alcoolique, il est misogyne, il est raciste au dernier degré. Enfin, c'est un personnage absolument antipathique. Mais l'histoire est tellement bien construite que c'est le genre de récit qu'on aime bien lire. Après, ce qui est intéressant, moi qui ai vu beaucoup de James Bond et régulièrement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il évolue et comment le personnage tout d'un coup devient de plus en plus, je vais pas dire inclusif, on n'en est pas encore là, mais c'est clair que Sean Connery en chinois, grimé en chinois, ça ne le ferait plus. On peut plus se permettre ça. Les derniers James Bond avec Daniel Craig, on voit que d'abord il y a un peu plus de place pour les femmes, avec des personnages un petit peu plus étoffés et un peu moins qui servent juste en fait de prétexte pour des scènes de sexe. Il y a des personnages qui deviennent un petit peu plus étoffés chez les femmes. Et aussi même James lui-même, le personnage de Bond, il devient quand même un tout petit peu moins misogyne, même si évidemment il y a des gimmicks qui reviennent. Et donc je trouve ça intéressant de voir l'évolution et le fait que on s'interroge maintenant pour voir si on pourrait avoir un 007 qui soit noir, ouais, ou qui soit une femme, pourquoi pas,
ou balafré, parce que balafré, la réflexion ce matin, Juliette me dit, mais s'il y en a bien un qui devrait avoir une cicatrice avec tout ce qui lui arrive depuis des années, c'est James Bond.
Oui, mais clairement, méchant, oui. James Bond, il est extraordinaire. Jamais il se tâche quand il boit un verre de vin, ou quand il mange des spaghettis d'ailleurs. Hein, il est toujours nickel. Il peut se bagarrer avec 12 mecs et tirer en arrière sans regarder. D'abord, il va les toucher, et deux, il va pas froisser son smoking. Il sera jamais décoiffé, il sera toujours impeccable et beau. Alors que, pardon, mais il y a quand même un petit problème de réalisme. Au-delà du fait de la construction du caractère, il y a quand même un petit problème. Enfin, moi, je connais pas la marque de smoking, ça m'intéresse. Hein. Le truc qui se fripe jamais, c'est extraordinaire.
On va chercher, en tout cas. Sandrine Goyvart, il y a Juliette Arnault qui a préparé un questionnaire de Parjupi Proust pour vous.
Sur l'échelle qui va de 0 à 10 de la féministe radicale hystérique, 10 étant, bon ben en gros, toutes les Simones, 0 étant Lassie qui était chien fidèle alors que c'était une femelle, à combien vous situez-vous?
99.
Quelle est la meilleure chanson à boire? Champagne de Jacques Higelin ou Viens boire un petit coup à la maison de Licence 4?
Alors, j'aime beaucoup Jacques Higelin.
Bah évidemment, donc c'est champagne.
Bah ouais, évidemment.
Oh,
bah
oui. Pourquoi les Américaines ne boivent-elles au cinéma que du chardonnay dans des verres grands comme des cubis?
Alors, je ne peux pas l'expliquer.
Ah, on est d'accord, mais c'est inexplicable.
Oui, c'est inexplicable. Surtout que c'est pas des verres, c'est des aquariums.
Oui, voilà, c'est ça. On ne sait même pas comment ils arrivent à leur bout. Très bien. On est d'accord, personne ne sait. Dilemme de l'horreur. Vous êtes obligé de partager une bouteille d'un vin cher à votre cœur avec une de ces trois personnes. Faites votre choix. Finkielkraut, Sonia Mabrouk ou Pascal Praud?
Ah purée, je pense quand même qu'il y a beaucoup de chances que le vin se retrouve à la figure d'un des trois intéressés.
Ce qui est une manière de partager.
Ouais. Dilemme. C'est une manière de partager.
Dilemme du bonheur, vous pouvez partager une bouteille chère à votre cœur avec l'un de ces trois-là, mais seulement un des trois, Elton John, Dolly Parton ou Stevie Nicks.
Oh mon Dieu.
Ça c'est un vrai dilemme pour vous.
Ah ouais, ah, c'est hyper bien vu ça. Dolly Parton.
Pardon, j'aurais dit pareil. À qui avez-vous envie de chanter? Chef, chef, un petit coup, on a soif.
À Elton John.
J'ai une amie qui aime à mélanger avec son vin rouge un peu de coca. Que faire? Ne plus être amie avec elle, lui crier dessus ou ne plus être choquée par ça et penser à la fin dans le monde pour bien visualiser les vraies raisons de s'énerver?
Bah en fait, c'est un truc qu'on fait en Espagne, donc il n'y a rien de choquant là-dedans.
Le calimucho, ça.
Le calimucho, oui. Donc, c'est un cocktail.
Elle a le droit.
Elle a le droit. Bon, peut-être pas au château Pétrus. Mais bon, pourquoi pas, okay. Après tout.
Toute petite dernière?
Philippe Gian disait « Pas un jour sans une ligne d'écriture, bien sûr, vous-même vous écrivez tous les jours, mais à choisir. Pas un jour sans une ligne ou pas un jour sans un verre de pif ?»
Mais j'écris en buvant.
Ah, dilemme. Sandrine Goyvaerts, et elle écrit un manifeste pour un vin inclusif qu'on vous conseille. C'est un petit livre qui coûte pas cher et qui est...
Oui, et en plus c'est très pédagogique. Vous trouverez des mots pour vous sentir plus courageux pour aller chez le ou la caviste.
C'est un petit livre, comme ça, même les hommes peuvent le lire et comprendre.
Merci Sandrine Goyvaerts et merci à tous. À demain, nous recevrons le dessinateur de presse CAC, président de Cartooning for Peace, parce que demain sur France Inter, c'est la journée spéciale femme afghane et notre directrice y tient beaucoup. Écoutez,
maintenant qu'il n'y a vraiment plus rien à perdre, vous voulez bien l'inviter à Zadeh Anwari?
Qui?
Mon afghane.
Est-ce qu'elle a du bon shit d'abord?